You don't love me no more.
Achetez.
Il est 9h.
Alors c'est la carotte.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, je vous emmène encore au Salon des maires, où je voulais absolument rencontrer une association et les gens qui la représentaient. Il s'agit des éco-maires. Alors si je vous dis éco-maires, vous allez me dire peut-être maire vert. Non, ça n'est pas un parti politique. C'est une association de maires qui veulent agir pour l'environnement, pour l'écologie. Et pour en parler, je suis avec Jean-Luc Aigouin, qui est vice-président des éco-maires. Bonjour.
Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis vice-président des Écomaires, une association nationale à laquelle j'appartiens depuis 2008, donc, puisque j'étais maire d'une petite commune rurale dans le Gard. Et donc, c'est une association qui a 35 ans d'âge. Et c'est Laurent Fabius, à l'époque, avec Yves Petrasanta, qui ont porté cette association au départ, parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait, on partait sur des problématiques environnementales, notamment, qui allaient modifier le cours des choses. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré il y a 35 ans.
Vous êtes combien de maires en France ?
À peu près 2000 collectivités qui sont adhérentes aux éco-maires. Alors c'est une adhésion qui ne coûte pas cher puisqu'elle coûte quelques centimes par habitant. Donc on peut très bien adhérer si on a des convictions, effectivement, pour cette amélioration de la vie sur notre planète, que ce soit la vie, on parle de biodiversité, mais on parle aussi de la vie économique et sociale. Tout ça, ce sont les trois piliers du développement durable dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et les éco-maires sont porteurs de ça. Comment font-ils ? Quel est leur rôle de cette association ? Mais c'est d'accompagner les collectivités dans leurs projets de ces domaines-là, de leur faciliter les possibilités qu'ils ont pour les mener à bien. C'est aussi une vitrine à travers, par exemple, les trophées Éco-Action qui, tous les ans, mettent en valeur des réalisations remarquables des collectivités. Et ils ont également des manifestations importantes auxquelles beaucoup de collectivités participent. On a notamment les Assises nationales de la biodiversité. Et donc, voilà, c'est un petit peu tout ça. Et ici, au niveau du Salon des maires, on a un stand où on rencontre beaucoup de gens, on fait connaître ce qu'on fait, on a beaucoup de partenariats avec des entités économiques, etc., qui nous permettent aussi de créer des documents, de la documentation qui est de la documentation authentique, je veux dire, puisque dedans, il y a chaque fois des exemples de réalisation dans des communes, avec les contacts, savoir ce qu'ils ont fait, qui on peut contacter si on est intéressé. Alors je pense par exemple à une commune qui va avoir, qui est très importante chez nous, c'est Moinsartou, que vous connaissez peut-être, qui au niveau des cantines, il y a très longtemps, a compris que la nourriture dans les cantines, il fallait aller vers autre chose, qu'il fallait être autonome, donc ils ont créé leur propre jardin, ils ont des employés communaux qui sont des agriculteurs. Donc voilà, ils ont beaucoup et ils continuent à avancer, à fédérer autour d'eux cette idée qu'on peut, dans sa commune, produire de la qualité et que cette production elle atterrit dans les cantines des écoles.
Qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple d'action menée par des éco-maires et que vous, en tout cas, voudriez voir se développer un peu partout sur le territoire ?
Alors, je vais vous parler de la mienne, puisque j'ai eu le trophée Action, Éco-Action il y a quelques années. Et on est sur la problématique de l'eau. Donc moi, j'étais dans un village, maire d'un village de 500 habitants, avec à peu près 250 compteurs d'eau, on va dire. Voilà. Et donc, quand on faisait le relevé des compteurs, je me suis dit, l'année d'après, je vais voir un petit peu comment ça évolue. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des compteurs qui baissaient leur volume d'eau. On a dit, avec la facture d'eau, on va leur mettre un petit carton pour dire, vous avez baissé votre consommation de X mètres cubes ou de tant de pourcentage, on vous remercie, on vous félicite parce que vous préservez, etc., avec un petit livret d'accompagnement, et on mettait ça avec la facture. Si par hasard, on oubliait ce petit carton, les gens venaient à la mairie en montrant la facture, en disant, mais moi, j'ai baissé ma conso, j'ai pas eu le petit carton. Au bout de 3 ans, 60% des compteurs avaient baissé leur consommation. Donc ça veut dire qu'avec 20 euros de papier par an, même pas, et d'encre, on pouvait faire baisser 60% des compteurs. Voilà ce que c'est déjà une action qui ne coûte pas cher et qui est très importante sur la préservation de l'eau. Après, il y a des projets sur le traitement des déchets aussi qui se fait de plus en plus. Il y a des projets sur l'éclairage public, il y a toutes sortes.
Alors, l'éclairage public depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est toutes les communes qui ont un petit peu réduit quand même leur éclairage public.
Est-ce qu'on réduit totalement ou est-ce que c'est des quartiers? Pourquoi? Parce que c'est ça qui est important, c'est de quel est le pourquoi de ce qu'on fait. Et puisqu'on parle d'éclairage public et de Mayotte, qu'est-ce qu'on fait nous en France actuellement? On met des LED pour remplacer les... Qu'est-ce qu'ils font à Mayotte? Ils mettent des photovoltaïques indépendants. Donc c'est une étape supérieure, donc ils sont en avance sur nous, parce que nous, dans quelques années, quand on aura épuisé le stock de LED, on passera au photovoltaïque.
Autre exemple?
Comment dirais-je, l'économie circulaire aussi qui est importante et qui se développe de plus en plus. L'été notamment, il y a beaucoup de spectacles qui se passent, donc les gens vont au spectacle. Mais l'idée c'était de se dire, vous allez au spectacle, si vous avez un objet culturel dont vous voulez vous séparer, vous l'amenez. On a des organismes style Emmaüs, style recyclerie, site des artistes qui vont les récupérer et qui vont soit les recycler, soit en faire des œuvres d'art, soit les revendre après les avoir.
Donc, c'est quoi un objet culturel? C'était des livres, c'était...
Des livres, des disques, des... n'importe quoi.
Des instruments de musique.
Des instruments de musique, etc. Alors certains en bon état, mais d'autres qui sont cassés. Mais vous avez un plasticien qui, avec des morceaux d'instruments de musique divers, vous fera une sculpture. Et l'idée, c'était, ensuite, une fois que ces plasticiens ont fait des choses, eh bien, on fait la tournée, on fait une exposition avec... Les objets recréés à partir de ça. Vous voyez, c'est pas des choses très compliquées. Voilà, c'est un exemple de recyclage et de voilà.
Parce que le maire peut amener auprès de ses habitants une approche différente, une culture différente, celle du futur et de l'écologie.
Voilà, c'est une volonté au départ. Et si on n'a pas la volonté, on n'ira pas. Alors après, ça peut être de l'affichage aussi simplement. Hein. Mais nous, on est plus sur de la pérennité que les choses. D'ailleurs, les projets qu'on récompense au Trophée Action, c'est la pérennité, ce sont déjà aboutis et qui sont pérennes. Voilà.
Il y a peut-être de la renaturation aussi ou de faire évoluer les cours d'eau vers réhabilitation de zones humides, des choses comme
bien
ça.
Bien sûr, tout à fait. Alors j'ai pas d'exemple en tête, mais tout ça c'est des projets qui arrivent, mais je ne les ai pas en tête. Il y a également sur le sport, comment on fait du sport durable aussi. Hein. Donc,
Alors comment on fait du sport durable?
C'était le club de Nîmes Olympique. Il y avait un joueur qui était un peu outré parce que, bon, quand il se partait de l'entraînement, il y avait des tas de bouteilles en plastique qu'on leur avait données pour boire pendant l'entraînement qui traînaient de partout. Un jour, il a dit, c'est pas possible, il dit, à Nîmes, on a de l'eau, on ne peut pas laisser notre eau. Donc, on va mettre un nom sur la bouteille, on va mettre des bouteilles, le nom du joueur dessus, et il remplira son eau et il repartira avec sa bouteille.
C'est tout bête, mais ce sont des choses que les maires, s'ils y prêtent attention, peuvent faire et peuvent aider donc les citoyens à prendre conscience.
C'est du quotidien. Alors là, j'ai un projet que je vais essayer d'initier, qui n'existe pas encore au niveau des chiens, voilà, des déjections canines, des chiens qui sont mal perçus, etc. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les maires, ils reçoivent des amendes quand leur chien... Mais l'idée, c'est...
Pas les maires, hein, ce sont les citoyens.
Les citoyens. Les maires leur mettent une amende, pam. Ton chien n'est pas tenu en laisse, ton chien a fait des déjections. Mais l'idée, c'est plutôt de les récompenser ceux qui font bien. C'est-à-dire, le maire, il repère qu'il y a des chiens, avec des maires, des maîtres qui ont un très bon comportement. Il leur met un collier bleu, blanc, rouge, chien et maître impeccable. Qu'est-ce qui se passe? Mais ces chiens sont reconnus, donc on sait que voilà, il n'y a pas de souci. Ceux qui se promènent sans collier, déjà, ils vont se dire, nous, on n'a pas le collier, donc on est un peu dans le viseur. Et donc, on va essayer d'avoir le comportement, etc. On peut même faire une cérémonie citoyenne avec les maîtres de chiens, comme ça se fait dans d'autres domaines. On pourrait mettre dedans aussi en boucle des choses. On est là, on voit plein de choses qui se réalisent dans les communes, dans les associations, etc. C'est ça qu'il faut, il faudrait que ça transparaisse aussi. La bouteille n'est pas pleine complètement de mauvaises choses. Il y a aussi des choses positives et qui donnent envie de... Voilà, c'est ça qu'il faut remettre, du positif.
On va faire une petite pause musicale. Vous avez envie d'écouter quelque chose?
C'est beau la vie. C'est de Jean Ferrat.
C'est parti.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà rond, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris. Que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées. Que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau la vie.
Alors nous sommes de retour, toujours au Salon des Maires, toujours avec Jean-Luc Aiguin, qui est vice-président national des Écomaires, donc cette association qui regroupe à peu près 2000 communes à travers le territoire, qui essaie d'impulser de l'écologie sur les territoires, des solutions simples, des solutions faciles à mettre en œuvre, mais qui amène tout le monde sur le bon chemin, on va dire. Toi, tu n'es plus maire, mais quand même, tu es toujours actif au sein de l'association, et tu un programme qui te tient particulièrement à cœur en ce moment. On le sait, il y a un an, hein, on est en novembre, c'était en décembre 2024, un cyclone dont j'ai oublié le nom.
Chido
a donc dévasté Mayotte, a dévasté les infrastructures de Mayotte. Et toi, tu as décidé de mettre en place des choses pour Mayotte. Raconte-nous.
Donc Chido, c'était le 14 décembre. Alors ça a dévasté, ça fait des morts, des blessés, des sans-abri, une biodiversité bouleversée, une vie économique réunitanéa, et puis une problématique de l'eau, plus d'eau potable. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai vraiment initié, il faut rendre à César ce qui appartient à Serge, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est Serge Brock, un ami qui a une ONG, une Egaïa Solidarité, qui le 21 décembre lance un appel et dit: 1000 fontaines pour Mayotte, soyons fous. Donc il m'appelle, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, et il me dit: Jean-Luc, avec les Écomaires, est-ce que tu peux m'accompagner dans ce projet? Écoute, je dis: Serge, pas de souci, on y va. Et donc, moi je suis basé sur le Gard, donc, et je dis: bah, écoute, je vais déjà dans mon département essayer de voir ce que je peux faire, comment. Voilà, donc alors j'ai la chance d'avoir un média qui s'appelle Midi Libre. J'ai dit: voilà, il y a ça, est-ce que vous pouvez. Bah, écoute, on en parle, etc. Et donc ce média a fait que, notamment des associations, dans un premier temps, on dit: voilà, bah, on est intéressé, on aimerait faire un don pour une fontaine, deux fontaines, trois fontaines, associations sportives, associations culturelles, associations troisième âge. Et donc je me déplaçais dans ces villes ou ces villages avec un PowerPoint, un diaporama où je présentais un petit peu Mayotte, l'histoire, la géographie, puis la situation. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, j'ai un ami qui s'occupe des canalisations, qui a une entreprise et qui me dit: Jean-Luc, j'aimerais faire quelque chose aussi avec mon entreprise. Mais j'ai dit: pas de souci. Puis il me rappelle dans la foulée, il me dit: non, mais on va faire mieux que ça, là, les travaux publics dans le département, je vais les alerter et puis ils vont aussi faire quelque chose. Et donc il a lancé ça. Et au Salon des Maires du Gard au mois de mai 2025, on a rassemblé le président des maires du Gard m'a dit: voilà, on t'offre un espace pour présenter ça. Il y avait le secrétaire général des maires de Mayotte qui était présent, La Fontaine. Et à ce moment-là, on avait à peu près une cinquantaine de fontaines émanant notamment des organismes, des travaux publics du Gard. Et toujours la même personne, Christophe Rios, qui me dit « Écoute, le conteneur, il doit faire 500 fontaines, on n'en a que 50. » Alors moi, je vais te les faire, les 500, je vais voir avec, au niveau national, avec les canalisateurs de France. Et au bout de quelques temps, il me dit, avant le début de l'été, « Voilà, ben ça y est, le conteneur est plein. Les canalisateurs, on a fait ce qu'il faut. » Et à Bordeaux, donc aux Assises de la Biodiversité en juillet, on a rencontré le directeur, le président de l'Office de l'eau de Mayotte, l'ancienne ministre de l'Outre-mer, Madame Barreit, et on leur a présenté ça. Et ils nous ont dit, sur Mayotte, on est prêt à collaborer pour ça, parce que la problématique, on la connaît bien. Et avec Serge, donc, on est parti en mission du 28 octobre au 9 septembre à Mayotte, en ayant un conteneur qui devait arriver à Mayotte, et on est parti pour organiser l'accueil, la réception du conteneur, le stockage des fontaines et la distribution, sans savoir trop ce qu'on allait faire. Mais on s'est dit, on va rencontrer du monde. Alors on a eu deux personnes importantes à l'arrivée. On a eu Soula Saïd Soufou, qui est le conseiller départemental de SADA, que je connaissais puisque j'étais déjà allé à Mayotte, et Mohamed Issouf, le directeur de l'Office de l'eau, qui nous ont ouvert des portes d'administration, d'association, etc., pour pouvoir préparer l'arrivée de ce conteneur, etc.
Et les envoyer vers les meilleurs endroits, les endroits les plus pertinents.
Donc, on est tombé ensuite donc, sur Hugues Makembo, qui est le directeur d'une association Mlesi Maoré, qui est dans le social notamment, etc., et qui est le directeur du groupe SOS, et qui nous a dit « Banco, moi je sais faire, je vais vous réceptionner le truc, le conteneur, je vais les stocker, et on va le distribuer avec la fédération des CCAS et des 17 communes, qui nous dira… »
Centre communal d'action commune sociale.
« Qui nous dira à qui on distribue les fontaines dans la commune. » Et ce qui vient d'être fait, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui, c'est que les fontaines ont été réparties pour des personnes âgées notamment, puisque c'est des personnes fragiles, on va dire, dans des familles ayant des enfants également. Donc voilà, le premier, on va continuer, puisque Mayotte, besoin d'eau par jour, 48 mètres cubes. Production, 41 000. 43 000 abonnés qui n'ont pas d'eau potable quotidiennement, des coupures de 4 jours, suivi d'une attente de 12 heures pour qu'on puisse utiliser l'eau. Donc c'est là que les fontaines sont utiles, parce qu'on peut l'utiliser sur toutes les eaux et tous les jours. Donc des fontaines familiales, il y a 41 000 abonnés, il nous faudrait 41 000 fontaines. Il en manque 40 500. Ensuite, les collèges, les lycées, les écoles, c'est 260 établissements. C'est 200 000 enfants, 200 000 élèves qui n'ont pas d'eau. Les écoles sont fermées parce qu'il n'y a pas l'eau à l'école. Donc là, on a des fontaines collectives qui coûtent un petit peu plus cher. Les premières, elles coûtent 94 euros, celles-là, elles coûtent 2500 euros. Donc on va lancer un appel, je vous expliquais où. Et ensuite, troisième fontaine, ce sont des fontaines qu'on peut mettre dans des conteneurs, qu'on peut mettre sur des captages communaux, où c'est des puits ou des forages, qui permettent là de faire 1000 litres à l'heure. Et donc là, également, ouais, trois niveaux. Donc les fontaines familiales, il en manque plus de 40 000. Vous savez qu'il y a 36 000 communes en France. Que si chaque commune mettait 94 euros, toutes les familles de Mayotte auraient l'eau tous les jours à la maison.
Et ça, ce serait vraiment montrer la solidarité.
Il y a écrit fraternité
vraiment.
Sur nos...
Voilà, il y a marqué fraternité sur les frontons.
Et c'est l'esprit colibri. Si une seule personne devait le faire, ça coûterait cher. Mais là, si chaque commune, si à Paris on lui demande 94 euros, si à la petite commune en Lozère, ce soir je vais rencontrer les Lozériens, mais 94 euros, on a de l'eau dans toutes les familles. Est-ce que c'est pas beau ça? On a dans ce pays des conseils départementaux. Il y a 97 départements. On a des conseils régionaux. Est-ce qu'un conseil régional ne peut pas mettre 2500 euros pour parrainer un lycée? Est-ce qu'un conseil départemental ne peut pas mettre 2500 euros pour parrainer un collège? Parce que nous, on passe à travers les radars, c'est-à-dire Mayotte, il y a des centaines de millions d'euros qui arrivent. Mais pas pour des projets comme le nôtre, qui ne sont pas suffisamment importants financièrement, mais qui sont très importants pour la sérénité. Quand on a installé notre première fontaine à Mayotte, la personne a dit, depuis Chido, c'est la première fois que je bois l'eau du robinet. Grâce à votre fontaine, je l'ai mise dans la fontaine, je ne la buvais pas. On achète de l'eau en pack, si on est 4 personnes, ça fait 2000 euros par an. On paye un abonnement pour de l'eau qu'on n'a pas. On sort de l'eau qui doit être potable et qui ne l'est pas, et qu'on paye comme l'eau potable. Et on fait bouillir l'eau avec notre énergie pour qu'elle soit potable. C'est là qu'on voit le durable, c'est qu'économiquement...
Et avec un revenu qui est quand même médian, qui est très faible à Mayotte.
Exactement, voilà. Il faut savoir que nous, quand il y a une coupure dans un village de demi-heure, tout le monde est au téléphone et appelle le maire. Là, on va essayer d'aider les 17 communes à avoir une de ces unités importantes sur leur commune, sur un captage qu'ils ont. Alors, on va essayer de trouver des financements et nous, les écomères, on va essayer de les aider à réaliser ce projet. Alors ici, on prend beaucoup de contacts pour essayer d'arriver à finaliser ça. Voilà, donc on en est là. Ça serait magnifique si l'Hexagone pouvait donner l'eau potable à tous les niveaux, en apportant peu chacun, mais beaucoup ensemble.
Alors ce projet de 1000 fontaines pour Mayotte est plus donc maintenant, puisque l'objectif est devenu 43 000 fontaines.
Parce que le collègue y croyait, c'est fou, 1000 fontaines, mais en fait on se rend compte qu'il y a 43 000 foyers qui ont besoin de la fontaine.
Alors donc ce projet donc soutenu par les écomères, en quoi les fontaines que vous amenez là-bas répondent? Il y a de la solidarité là et ça c'est important en écologie, hein, on vit tous dans la même maison, la planète Terre, ça montre aussi une des faces importantes de l'écologie. Mais en quoi le fait que ce soit un écomère qui est mené ce projet est différent d'un autre? Est-ce qu'il y a une démarche particulière? Est-ce que ces fontaines sont particulières?
Alors, ces fontaines sont particulières, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'adapter au public et à la situation. Donc, les familles, c'est un type de fontaine. Pour les unités plus importantes, comme les collèges, etc., ben, c'est un autre type de fontaine. Et pour les communes, c'est encore un troisième type. Donc, c'est-à-dire, c'est adaptable. Et en plus, les fontaines pour les communes, il manque de l'eau. Donc, il n'y a pas assez d'eau. Mais si on prend des captages qui ne sont pas le circuit, on va rajouter du volume d'eau. Donc, on va améliorer à la fois la quantité qui manque et la qualité qui n'y est pas. Il y a les deux. Donc, ça... Et alors, on résout quand même beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'actuellement, les gens qui boivent l'eau qui n'est pas bonne, ils finissent à l'hôpital. Donc, ils encombrent l'hôpital. Vous voyez ? Moi, j'ai pris une photo d'un enfant dans une école qui allait boire en cachette l'eau qui n'était pas bonne. Vous voyez ? Donc, c'est tout ça. Donc, c'est un problème sanitaire, d'hygiène publique. Donc, qui est...
Et ça, c'est pour vous, c'est le développement durable aussi ?
Bien sûr que c'est le développement durable. Parce que, bon, il suffit donc... Il y a 17 objectifs dans le développement durable. C'est l'ONU qui a fait ça et il y a une fiche de route pour tout le monde, pour tous les pays. Donc les 17 objectifs, je peux vous les reprendre si ce n'est pas trop long. Hein. Par exemple, on nous dit qu'il ne faut pas de pauvreté. Avec ce qu'on fait, eh bien, pas de chat de bouteille d'eau, pas de chauffage d'eau de potabilité. Donc c'est-à-dire que ce sont des milliers d'euros qu'on économise, donc on est moins pauvre. Ensuite, la faim zéro. Ben, l'eau potable... Ça sert pour la cuisine. Si on n'arrive pas à faire sa cuisine, on n'aura pas la faim zéro. La bonne santé et le bien-être, ben on évite les maladies hydriques. Voilà, il y en a qui tombent plus sous le sens que d'autres.
Et ce qui sont souvent mortelles et très mauvaises en tout cas.
Ensuite, éducation de qualité. Comment peut-il y avoir une éducation de qualité quand les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'eau ?
Les écoles encore à Mayotte, actuellement, un an après... Non, toujours pas d'eau. Non,
toujours pas d'eau, donc je vous montrerai un document tout à l'heure. Mais voilà, l'eau purifiée et potable.
Là, on est au cœur, évidemment.
C'est l'eau propre et l'assainissement. Alors après, énergie propre et d'un coût abordable. Les unités des collectivités qui vont être dans des grands containers, eh bien, on va utiliser le solaire avec Électriciens sans frontières, avec qui est en train de travailler un partenariat, pour que ce soit le soleil qui fasse l'énergie.
Ce soit autonome.
Autonome, totalement, vous avez tout compris. Ensuite... Ben, la création d'emplois locaux, travail décent et croissance économique. Au lieu de tout importer, on va créer de l'emploi sur place. On a déjà rencontré des entrepreneurs qui sont sur place et qui vont pouvoir faire les montages de tout ça. On va créer une unité commerciale pour ensuite pérenniser la chose. Donc on crée localement. Ensuite, on a les inégalités réduites. Alors ben, là, ça se comprend. C'est un bien commun, universel. Donc là, voilà. Ensuite, on a des villes et des communautés durables. Ben, sans eau potable, c'est l'exode, hein, on le voit. Donc comment ces villes, elles vont se vider, tous ces gens, on le voit bien, puis il y a des Comoriens qui arrivent parce qu'ils ont des manques. Donc vous voyez, c'est tout ça. Ensuite, ben, c'est l'assurance d'avoir de l'eau potable, consommation et production responsable. On retombe dans ça. Là, on a de la production, mais ils n'ont pas confiance, donc ils ne consomment pas. Donc vous voyez, il manque ce lien. Ensuite, on a les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques.
Ben clairement, le cyclone qui s'est abattu sur Mayotte est lié au changement climatique. Hein, donc,
mais ça évite la fabrication de plastique, par exemple. Donc, vous voyez. Ensuite.
Oui, parce qu'on remplace les bouteilles d'eau par des fontaines, c'est beaucoup plus intelligent.
La vie aquatique, qu'est-ce qui se passe à la vie aquatique? Eh bien, c'est que les fontaines, les bouteilles, elles atterrissent où? À savoir qu'ils ont quand même une barrière de corail qui est une des plus importantes, dont on va détruire toute cette biodiversité marine. Et je continue. Ensuite, avec la paix, la justice et les institutions efficaces. Eh bien, l'eau potable pour tous, c'est un gage de justice quand même. Et c'est un gage de paix, parce que quand on n'a pas d'eau, la guerre de l'eau, ça existe aussi, vous voyez. Et ensuite, ben, sur le 17, qui est le dernier, c'est des partenariats pour la réalisation des objectifs. C'est ce qu'on fait en ce moment. Partenariat avec des entreprises, des associations, des municipalités, etc.
Bientôt les départements.
Bientôt les départements, les régions. Je pense qu'ils vont se faire un plaisir de contribuer à ça. Franchement, si l'Hexagone arrive à dire tout le millefeuille, tiens, puisqu'on parle du millefeuille, ben pour une fois, le millefeuille, il jouera son rôle.
D'avoir multiplié les feuilles.
Chaque strate du millefeuille aura apporté une réponse à une problématique qui touche un de nos départements et une population qui est en attente.
Bon, ben voilà un bel exemple des écomères et d'une écologie, d'un développement durable en action, dans la solidarité. C'est pas simplement embêter les gens comme certains voudraient le faire croire, c'est pas simplement vouloir empêcher qu'on fasse librement des choses, c'est aussi avoir de la solidarité, c'est aider les autres et c'est vivre ensemble.
C'est vivre ensemble, mais pour ça il faut en parler, il faut voir ce qu'on peut apporter chacun, et tous capables d'apporter à notre... Et ça c'est vraiment le projet emblématique où chacun peut apporter quelque chose, et à la fin, je dis là, il y a eu de la solidarité au départ, on est dans de l'efficacité pour le moment, et on est dans de la reconnaissance à la fin. Voilà, c'est l'humanité qui est présente, donc qui permet la prospérité et qui permet à la biodiversité d'exercer. Vous voyez, donc on a les trois piliers de nouveau qui se retrouvent, humanité, biodiversité et, comment j'ai dit, prospérité, voilà, les trois. Et c'est ce qu'a ta Mayotte.
Et alors, où est-ce qu'on peut aller voir? Si on est maire, si on est conseiller départemental, si on est même particulier, si on veut aider, où est-ce qu'on peut retrouver ce programme sur Internet?
Alors, ce programme sur Internet, alors sur les écomères, pour le moment, il y a des débris, mais on va faire quelque chose de particulier après. Sur,
sur le site des écomères.
Sur le site des écomères. Puis on a une IGAIA, donc, qui est quand même le partenaire essentiel. C'est quand même le moteur. Mon ami Serge Brock, là, vraiment, et son ONG, ils sont vraiment moteurs. Voilà, donc il a fallu organiser tout ça. Il a pris une pas prépondérante. Et puis également, je reviens sur le fait que les entreprises ont vraiment joué, les canalisateurs ont vraiment joué le jeu. Parce qu'il faut comprendre aussi que quand on fait des infrastructures et avant que ça arrive, les gens se mettent en colère parce que ça n'arrive pas, tout ça. Mais si là, en sachant que ça va être long pour remettre canalisation, etc., s'ils ont la sérénité d'avoir l'eau tous les jours grâce à ça, ben c'est plus acceptable la durée. Vous voyez, c'est ça aussi qui est important.
Est-ce qu'il y a d'autres projets? On a beaucoup parlé là, mais il nous reste très peu de temps. On peut parler d'un dernier projet, oui, porté par les écomères?
Oui. Alors, ça s'appelle Ville de Miel.
Ah, ça c'est...
sur la biodiversité. Et donc, depuis quelques années, depuis 10 ans, donc, les écomères ont lancé ça en s'apercevant qu'il y avait, sur les pollinisateurs, il y avait un problème, donc, et que des collectivités commençaient à en prendre... conscience et travailler avec leurs scolaires sur les abeilles. Et voilà. Et puis petit à petit, ils ont travaillé avec les apiculteurs, ils ont fait des projets éducatifs, ils ont fait du miel. Et donc tous les ans, on organise ce concours dans le cadre des Assises nationales de la biodiversité où les communes envoient leur mail, mais envoient également un dossier où ils expliquent ce qu'ils font dans un programme de biodiversité. Quel est leur projet de biodiversité environnementale et quelle est la place de Ville de Miel dedans. Donc tous les ans on fait ça. Donc on a à peu près une trentaine de communes qui parlent, mais on veut le développer. Et surtout, on a eu il y a 2 ans un miel de Guyane, donc d'outre-mer, qui a eu le premier prix. Donc c'est la première fois qu'il y avait une présentation et donc les jurys, parce qu'on fait aussi, les gens goûtent le miel et puis ils attribuent, voilà, donc ils participent au vote. Et donc voilà, donc on veut développer cet aspect-là qui est aussi, alors le miel c'est la cerise sur le gâteau comme on dit, mais c'est surtout tout le travail qui est fait, tout le travail de fond pour les pollinisateurs. Et donc quand je suis allé à Mayotte, donc j'ai rencontré un apiculteur parce que voilà, il y a eu problème, et donc ils sont en train de relancer ça et on va les aider à relancer une filière apicole jusqu'à ce que le miel de Mayotte soit Ville de Miel.
Bon, mais super, que des beaux projets et que du positif. Merci, une vraie belle rencontre avec toi, Jean-Luc Aiguin. Longue vie à tous tes projets, une belle réalisation donc à Ces Fontaines pour Mayotte, à tous les projets des Eaux-Comères. Merci infiniment pour ce moment positif. Un petit mot de la fin.
Oui, mais je souhaite que beaucoup, il va y avoir des élections, que beaucoup adhèrent aux Eaux-Comères, ça ne coûte pas cher. Puis c'est un lieu d'échange, un jeu de valorisation et on est là présent pour les accompagner le plus possible pour que leur ville, leur village soit durable à travers toutes les actions, que ce soit environnementales, que ce soit pour l'éclairage public, pour l'eau, dans tous les domaines, on sera là.
Merci Jean-Luc Aiguin, au revoir.
Au revoir et à une prochaine et bonne fin de salon.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.